Fidèle auditeur de Radio Serré, soyez la bienvenue à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine d'information sanitaire. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous écouter sur cette fréquence. Votre émission Santé pour tous va se pencher aujourd'hui sur le phénomène de consommation du tabac et de l'alcool, ainsi que leurs conséquences sur la santé. Pour aborder cette thématique, nous recevons dans nos studios le docteur Marius Sourek, médecin généraliste en service au centre de santé d'arrondissement de Gazawa. Bonjour docteur et bienvenue dans ce studio pour éclairer nos auditeurs.
Bonjour à vous, bonjour chers auditeurs.
Ok, pour entrer directement dans le vif de notre sujet docteur, la consommation de tabac et d'alcool est-il un réel problème sanitaire dans notre région?
Oui, par rapport à ce sujet, effectivement, nous pouvons dire que c'est un réel problème du fait que beaucoup de gens ignorent déjà que ça peut provoquer des problèmes de santé. Ils ne savent même pas quelle dose, à quelle quantité consommer et à quel moment c'est devenu un réel problème de santé. Généralement, on les reçoit quand ils ont déjà des manifestations avancées, des maladies qui sont liées à la consommation de ces éléments-là.
Docteur, lorsqu'on parle de tabac, concrètement, dans quelles différentes formes il se présente et comment est-ce qu'on le consomme?
Pour les différentes formes, les différentes présentations de tabac, nous avons plusieurs présentations qui sont répandues. Généralement, nous avons la cigarette qui est la plus connue, celle qu'on trouve quasiment partout dans n'importe quelle boutique. Il y a aussi d'autres, le tabac à rouler qu'on fait, la pipe, le cigare, la chique ou alors ce qu'on connaît sous le nom de chicha qu'on appelle le narguilé.
Et s'agissant de l'alcool, quelles sont les principales boissons alcoolisées qu'on trouve ici chez nous à l'extrême-nord?
Pareil pour les différentes formes de cigarettes, il y a également beaucoup de formes d'alcool. Donc, nous avons déjà la bière, les bières traditionnelles qu'on brasse localement, maintenant plus les bières des brasseries modernes. Nous avons également des vins, des spiritueux, des whiskies, des boissons très haute teneur, dont des whiskies qui sont souvent de présentation soit dans des bouteilles en verre, soit dans des sachets en plastique.
Docteur, justement, en termes de boissons alcoolisées traditionnelles, lesquelles, il s'agit de quelles boissons concrètement?
Pour parler des boissons traditionnelles, je crois que nous avons celle qui est la plus connue dans la région et au-delà même, celle qu'on appelle localement le bilbil, bilibili.
Donc c'est la seule boisson traditionnelle qui est consommée ici à l'extrême nord?
Il y en a d'autres fois, boissons alcoolisées fermentées. Bon. Mais au risque de me tromper, je n'ai pas envie de citer le nom.
D'accord.
Mais c'est la plus répandue. C'est celle qui est faite à partir des céréales locales, une bière fermentée à partir de céréales locales qui est connue dans quasiment toutes les régions du Grand Nord.
D'accord, docteur. Justement, à propos du bilbil, on se rend très bien compte, c'est une boisson très prisée, très consommée par les populations ici à l'extrême nord. Est-ce qu'il s'agit d'une boisson saine? Est-ce qu'elle est sans danger pour la santé?
Par rapport au bilbil, ça peut être une boisson qui est relativement saine. Ça dépend juste de la manière dont elle a été faite, de la manière dont elle a été fabriquée. Généralement, il s'agit d'un processus de fabrication simple, de fermentation simple, à part lequel on utilise juste des céréales et des levures. Si le processus reste normal, sain, il reste sans ajouter d'additifs, il peut être relativement normal, mais ce n'est pas dans tous les cas. Dans d'autres cas, pour accélérer le processus de fermentation, peut-être pour modifier le goût, d'autres personnes auront tendance à ajouter d'autres éléments, voire même encore ajouter des spiritueux ou des liqueurs ou alors du whisky en sachet pour rehausser la teneur en alcool. Donc la sûreté de cette boisson dépend juste de la manière dont elle a été vraiment préparée, dans la manière dont elle a été brassée.
Alors, si on prend le bilibili originel, c'est-à-dire sans additifs, sans whisky ajouté, est-ce qu'il y a des études qui ont déjà essayé de mesurer sa teneur en alcool?
Oui, par rapport aux études, elles ne sont pas nombreuses, mais en regardant les documentations récentes, généralement, les teneurs en alcool varient entre 4 et 6 degrés d'alcool par centaines de millilitres. C'est les seules informations qu'on peut avoir pour le moment.
Quelles sont les causes justement du tabagisme, de l'alcoolisme chez les jeunes d'abord et ensuite chez les adultes? Comment est-ce que ces personnes-là arrivent justement à sombrer dans le tabagisme ou l'alcoolisme?
Par rapport aux causes, ça dépend des diverses raisons, des motivations de tout un chacun. Prenons chez les sujets jeunes, les adolescents. Les causes, généralement, c'est juste soit un phénomène de mode, soit un phénomène de suivisme. Un phénomène de mode, la compagnie, les amis avec qui on marche, ceux qui sont autour de nous, qui nous poussent à dire mais bon, tu as atteint un certain âge, tu vois comment tes frères, tes amis, tes aînés sont là autour de bières et autres, pourquoi tu ne fais pas la même chose? D'autres aussi veulent juste copier les images qui sont retransmises soit par la télévision, soit ce qu'ils voient autour d'eux. Ils veulent aussi essayer pour dire qu'eux aussi se font partie de ce monde, on peut dire ça entre guillemets. Donc c'est, chez les jeunes, c'est plus un phénomène de mode. Par contre, quand on entre dans une population plus âgée, c'est chez ceux qui sont censés être actifs, il y a plusieurs raisons peuvent pousser à le faire. La première raison évoquée, c'est généralement pour réduire le stress, noyer les soucis, comme ils disent. Donc, vous avez un phénomène de pression, la pression autour du boulot, la pression autour de la famille. Beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, qui poussent les gens à consommer soit l'alcool, soit le tabac. Réduire le stress, aider à se concentrer quand peut-être ils ont trop d'activités ou trop de travail. Donc, voilà un ensemble des différentes raisons qu'on a qui poussent généralement la population à aller se tourner vers ces produits-là.
D'accord. En fait, docteur, c'est quoi un alcoolique? À partir de combien de verres et à quelle fréquence de consommation on peut dire que quelqu'un est alcoolique?
C'est une définition qui est assez ambiguë. Mais généralement, on va considérer une personne comme alcoolique quand elle consomme une quantité de boissons alcoolisées ou d'alcool ou en forte teneur en alcool qui pose un détriment à sa santé. Donc, quand elle consomme de l'alcool malgré le mal qu'elle cause à sa santé ou bien à la santé de son entourage ou bien-être de son entourage, c'est là qu'on considère qu'il s'agit d'une consommation excessive d'alcool. Donc, la personne ne peut plus se contrôler. La quantité d'alcool qu'elle prend, elle ressent ce besoin-là. Elle ressent ce besoin irrépressible. Donc, c'est comme une pulsion pour elle. Donc, cette personne peut être qualifiée d'alcoolique quand elle prend déjà une certaine quantité d'alcool qui est nocive déjà pour sa santé et pour le bien-être, que ce soit social ou même le bien-être émotionnel, financier de son entourage.
Ça veut dire, par exemple, docteur, si quelqu'un a l'habitude de boire 2 bières chaque jour,
oui,
et qu'il ne ressent aucun effet néfaste pour sa santé, il n'est pas alcoolique?
Tant qu'il ne ressent pas le besoin de boire, donc si jamais... Ça ne lui crée pas une sensation de manque. Donc, c'est ce désir, cette sensation de manque qui pousse vers l'alcoolisme. Donc, vous avez besoin d'ingérer la substance, mais vous ne la trouvez pas. Et vous êtes prêt à tout, malgré les inconvénients, malgré les avantages. Peut-être, vous n'avez pas suffisamment d'argent sur vous pour en acheter, mais vous allez quand même chercher tout moyen pour pouvoir acheter ça. Quand bien même vous avez peut-être une autre priorité avec cet argent-là, mais vous êtes poussé par ce désir-là, par cette pulsion-là d'absolument prendre de l'alcool. Mais dans certains cas, même s'il s'agit ne serait-ce que d'une seule bouteille et que ça pousse toujours au même désir, ça aussi, ça peut être considéré comme l'alcoolisme. Ça ne dépend pas de la quantité, la teneur d'alcool qu'on a dans le sang, mais la pulsion, les désirs qu'on a pour apprendre cette substance-là.
Quelle est la quantité limite d'alcool qu'un adulte pourrait consommer sans mettre sa santé en péril? Ou alors ça est en fonction justement des personnes?
Ok. Par rapport à la quantité limite, il y a un système de classification anglo-saxon qui quantifie la quantité, la teneur d'alcool par boisson. Généralement, ce qu'on fait, c'est multiplier juste le volume par le pourcentage et diviser. Donc, ce qui fait que si je dois prendre nos références d'ici, par rapport à nos bières standards, les bières issues de brasseries, qui sont environ à 4 et 5 degrés d'alcool, pour une bière de 500 millilitres, un demi-litre, nous avons une teneur de 2 unités d'alcool par bouteille. C'est beaucoup plus fort pour les autres boissons, les vins, les spiritueux, tels que les whisky, les vins de table et autres. Les teneurs sont bien plus grandes pour la même quantité. Et encore, c'est encore beaucoup plus pour le whisky frélaté, dont les whisky qui viennent en sachet. La teneur pour un sachet, un petit sachet qui est de quelques centilitres est égale à la bouteille qui a la quantité d'un demi-litre qu'il y a dans une bouteille de bière. Et généralement, par rapport à ces unités-là, il est recommandé pour éviter tout problème de santé. Chez les hommes, déjà, c'est de ne pas dépasser la dose maximum qui est de 10 à 11 bouteilles la semaine. Donc, ça fait entre 10 et 14 unités par semaine, 14 unités d'alcool, qui représentent environ 10 à 11 bouteilles la semaine. Ça, c'est chez les hommes. Et chez les femmes, la dose maximum est de 7 bouteilles la semaine. Donc, voilà un peu des quantités, les valeurs, seuils qu'il ne faut pas atteindre. Il faut éviter d'atteindre par semaine pour avoir un quelconque problème.
Ça devient difficile à contrôler tout ça, docteur. C'est-à-dire pour le citoyen lambda, s'il faut déjà faire ses calculs, c'est difficile qu'il réussisse justement à encadrer sa consommation d'alcool. Est-ce qu'il n'y a pas de technique plus simple pour les amener justement à modérer leur consommation?
Oui, c'est justement pour ça que j'ai fait la conversion en termes de bouteilles. Si on prend un exemple précis, une bière bien connue, disons peut-être la 33 ou la Castel par exemple, il doit juste se fixer que pour cette semaine-ci. Pour un homme, pour un adulte, un adolescent, je ne dois pas dépasser 11 bouteilles cette semaine.
Ça, c'est pour un homme, pas un adolescent.
Oui, on va prendre la même tranche d'âge, adolescent et homme. C'est d'accord. Pareil. Je prends adolescent comme étant, il a déjà traversé l'âge de la puberté, donc à partir de 16 ans en montant.
D'accord.
Donc, évitez déjà de prendre 11 bouteilles cette semaine. Ce n'est pas 11 bouteilles en une journée, mais je parle bien d'une quantité en une semaine, ce qui fait déjà beaucoup. En termes financiers. Et pour une femme, quelles que soient ses sorties, ses occupations et autres, elle doit éviter de prendre plus de 7 bouteilles.
Et si c'est un homme qui consomme du vin et du whisky?
Ça dépend de la quantité qui a été consommée. Pour une bouteille standard, je pense qu'il va se retrouver à consommer environ 6 unités. 6 unités, je pense que c'est pour des bouteilles de vin qui se retrouvent souvent aux alentours de 30-40%. Il va éviter d'avoir à finir 2 bouteilles par semaine pour éviter vraiment tout risque nocif.
Et pour le bilibili?
Je reviens sur ce que je disais, c'est en fonction du volume qui a été consommé. Le bilibili, pour lui, pour une fermentation standard, pour le bilibili qui a été brassé la bonne manière, sans ajouter d'additifs et autres, sans ajouter de produits qui vont rehausser la teneur en alcool, c'est une boisson qui est relativement saine, entre 4 et 6%, 6 degrés, comme je disais tout à l'heure. Pour ça aussi, c'est la quantité. Évitez de consommer environ plus de 6 litres par semaine aussi pour éviter tout problème de santé.
Docteur, pour revenir au tabagisme, qu'en est-il des cigarettes électroniques et autres chichas auxquels les jeunes s'adonnent de plus en plus? Sont-ils sans risque pour la santé?
Alors, effectivement, concernant les cigarettes et les chichas, c'est l'une des nouvelles modes récentes et une mode qui est aussi excessivement nocive pour la santé. Déjà, pour bien faire la part des choses, il n'y a pas de grosse différence entre la cigarette électronique, la chicha et les cigarettes standards qui sont vendues. La seule différence, c'est au niveau du sens du goût. Dans les cigarettes électroniques ou les vaporettes ou alors dans le chicha, ce qu'on fait, c'est juste rajouter une arôme particulière dans le produit qui va être vaporisé. Ce qui trompe les sens, ça peut dire non, ceci ne contient pas, ils ne contiennent pas de nicotine, ils ne contiennent pas de substances nocives pour la santé. Pourtant, à la différence de la cigarette où c'est juste à travers une flamme que la fumée se dégage, la différence entre les vaporettes, la chicha et la cigarette, c'est la présence de substances telles que le goudron ou bien la teneur en nicotine, mais également dans la chicha ou dans les cigarettes électroniques, il y a de la nicotine. Il y a aussi d'autres éléments qui sont à l'intérieur, tels que de l'éthanol, et de l'éthanol qui est l'équivalent de l'alcool, et aussi des matières, des arômes qui sont fabriqués d'une manière synthétique. Donc, autant de produits qui sont tout aussi nocifs pour la santé.
Quels sont les risques médicaux d'une consommation excessive d'alcool d'abord et d'une consommation excessive de tabac ensuite?
Bon, par rapport à l'alcool, l'alcool attaque plusieurs parties du corps. Il n'attaque pas seulement le foie, mais il attaque également le cerveau. Quand il y a une consommation excessive d'alcool, l'alcool est, comme tout beaucoup de substances, c'est considéré comme une substance chimique, comme un médicament qui va d'abord être métabolisé par le foie. Une fois transformé par le foie, il va permettre son évacuation rapide. Mais en consommant excessivement d'alcool, on bloque les fonctions du foie. Donc, on a un foie qui fonctionne de moins en moins bien. Et après, au bout d'un moment, s'installe ce qu'on appelle une cirrhose, qui devient juste un durcissement du foie avec une diminution des fonctions du foie. Après la cirrhose, généralement, le stade avancé, c'est ce qu'on appelle un carcinome hépatocellulaire, qui est un cancer du foie. Mais les répercussions du mal fonctionnement du foie vont aller dans tout l'organisme. Nous avons au niveau du cerveau, nous avons beaucoup de répercussions. Nous avons aussi également au niveau du système rénal, dont l'évacuation des urines aussi est perturbée. Ça, c'était par rapport à l'alcool, les quelques-uns. J'en ai oublié d'autres. On va pas faire une liste exhaustive. Maintenant, pour la cigarette. La cigarette et les autres produits tels que les cigarettes électroniques ou bien la chicha. Déjà, le premier danger avec, c'est la destruction de ce qu'on appelle l'épithélium, qui est la surface qui recouvre les voies respiratoires à cause de la chaleur élevée. Lorsqu'on aspire cette vapeur-là, soit les vapeurs, soit la fumée, elle brûle, elle va détruire la surface qui protège cette partie-là. Donc, c'est qui va nous exposer à beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de germes, beaucoup de microbes dans l'air. Généralement, quand ces particules ou ces germes sont inhalés, elles sont retenues par la surface, par ces surfaces des voies respiratoire est rejeté par la suite. Mais pour une personne qui fume, pour un fumeur chronique, ce mécanisme de défense n'est plus aussi efficace. Donc vous avez un problème déjà d'une baisse de l'immunité des voies respiratoires. Maintenant, d'une manière plus chronique, plus avancée, nous avons différents cancers qui peuvent s'installer, comme les cancers des poumons, les cancers des lèvres ou même encore des cancers de la vessie. Ce sont autant de facteurs risques et d'éléments qui sont nocifs pour la santé.
Dans votre pratique quotidienne, est-ce que vous arrive de rencontrer des malades qui, justement, subissent les conséquences de leur alcoolisme ou de leur tabagisme? Si oui, quelles sont les maladies les plus fréquentes que vous rencontrez suite à la consommation de ces deux substances?
Dans notre pratique quotidienne, ça nous arrive de rencontrer des cas de maladies liées à la consommation d'alcool et de tabac. Mais malheureusement, comme je disais, ça arrive quand ils sont déjà atteints à un stade très avancé de ces maladies-là. Ils ont passé les stades de la dépendance pour entrer maintenant dans les atteintes des organes nobles. On rencontre beaucoup de cas de cirrhose hépatique ou alors de cancer du foie. On rencontre également des troubles neurologiques importants qui sont dus à la consommation excessive d'alcool. Beaucoup de patients viennent aussi se présenter avec des pneumonies aiguës ou chroniques, que ce soit des bronchites chroniques ou alors d'autres pathologies du genre. Donc malheureusement, on recense seulement des cas sévères qui sont dus aux complications, aux effets secondaires de ces substances-là.
Docteur, on entend souvent parler de tabagisme passif. Pouvez-vous nous dire de quoi est-ce qu'il est question?
En ce qui concerne le tabagisme passif, c'est juste le fait d'inhaler de la fumée qui était rejetée par quelqu'un qui l'a fumée. Donc par exemple, vous êtes assis à côté de moi, vous allumez votre cigarette, vous aspirez une bouffée et vous rejetez. Moi qui suis à côté de vous, je vais donc aussi également aspirer la même fumée que vous. La seule différence, c'est que la concentration d'éléments qu'il y avait dans la bouffée que vous avez prise, elle est juste légèrement réduite par rapport à celle que moi je vais inhaler. Donc c'est ça le phénomène de tabagisme passif. Il suffit juste d'être, pour quelqu'un qui est non-fumeur, d'être exposé ou être dans la même pièce que quelqu'un qu'un fumeur et d'inhaler cette fumée-là.
Est-ce que les tabagistes passifs sont exposés aux mêmes risques sanitaires que ceux qui sont actifs?
Oui, effectivement, dans le tabagisme passif, on est aussi soumis aux mêmes contraintes, aux mêmes effets sanitaires, ou bien aux mêmes maladies que sont exposés les fumeurs actifs. Tout simplement du fait que la quantité, la teneur en substances des cigarettes et autres, c'est quasiment la même que celle qui est la même qui est inhalée par un fumeur passif. Donc ce sont exactement les mêmes risques auxquels est soumis un fumeur passif.
Effectivement, en parlant du tabagisme passif, docteur, il est très fréquent de voir des gens, lorsqu'ils veulent allumer une cigarette, ils ne se gênent pas de savoir s'il y a des personnes non fumeurs dans leur entourage, ou alors parfois dans les transports en commun, ou alors en public. Est-ce qu'il y a des conseils qu'il faudrait donner?
Généralement, dans les cas de tabagisme passif, pour éviter d'être en contact avec cette cigarette-là, le mieux encore, ce serait de dire directement à la personne que vous ne supportez pas, que c'est un gros risque pour votre santé, pour vous et votre santé. Dans les espaces publics fermés, c'est beaucoup plus difficile. Il serait encore mieux carrément de dire au propriétaire de l'endroit ou à celui qui est responsable de l'endroit de marquer d'où de séparer ces espaces-là. Mettre un espace fumeur pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer et un espace non fumeur. Sachant déjà que dans les espaces non fumeurs, la cigarette est strictement interdite. Mais pour les conseils, pour que ce soit bien plus pratique, ce serait carrément mieux de vous tourner vers la personne et demander d'arrêter. Parce que vous êtes exposé à un problème de santé.
Donc lui demander soit d'arrêter de fumer, soit de s'éloigner.
Exactement.
Ok. Ah, docteur, une femme enceinte ou une femme qui allaite peut-elle consommer l'alcool ou le tabac sans mettre en danger la vie de son bébé?
Par rapport à cette question, la réponse est simple, c'est non. Elle ne doit pas. consommer ni alcool ni cigarette. Tout simplement parce que les répercussions sont énormes au niveau de l'enfant. Prenons le cas de la femme enceinte. Généralement, le fœtus ou l'enfant, étant dans le ventre, il est protégé de certaines substances nocives qui peuvent circuler dans le sang de la maman. Mais il existe quand même des substances qui peuvent traverser ces barrières-là et pour pouvoir atteindre le bébé. Prenons le cas de l'alcool. L'alcool est très dangereux, surtout dans le premier trimestre de la grossesse, parce que c'est le stade où les organes, les différents organes et les membres se développent chez le fœtus. Or, une maman enceinte qui est en train de consommer de l'alcool à ce moment-là, elle met en danger la vie de son fœtus et c'est son bien-être. Tout simplement, elle interfère avec le développement normal du fœtus. Et généralement, il résulte de ces cas beaucoup de types de malformations congénitales, surtout qui sont liées au terme de l'alcool. Et ça va se ressentir généralement avec un retard intellectuel. L'enfant qui va naître d'une mère alcoolique au premier trimestre va naître forcément avec un retard intellectuel, ce qui est déjà une conséquence assez grave. C'est aussi pareil pour la consommation de tabac. La nicotine, le goudron, beaucoup de substances qui sont présentes dans la cigarette empêche le bon développement. Donc vous aurez beaucoup de malformations de la tête, de malformations des membres qui peuvent suivre pendant la grossesse. Maintenant, chez la femme qui vient, la femme allaitante, elle a déjà accouché, elle est en train de donner le lait à son enfant. Ces substances-là, que ce soit l'alcool ou la nicotine ou les microparticules qui sont nocives, peuvent traverser à travers le lait maternel, se retrouver dans le lait maternel et se retrouver dans le corps de l'enfant. Donc, l'utilisation de ces substances, la consommation de cigarettes et de tabac est fortement proscrite chez les femmes enceintes et allaitantes.
J'espère qu'elles nous écoutent et qu'elles prennent bonne note de différents conseils que vous leur prodiguez.
Nous espérons aussi.
Docteur, dites-nous, supposons qu'à l'instant où nous parlons, quelqu'un nous écoute et il décide, c'est-à-dire il prend conscience des dangers encourus en tant que consommateur d'alcool et de tabac, il décide de laisser tomber ces substances-là. Que doit-il faire pour sortir de ces addictions?
Déjà, la première partie, l'étape la plus importante dans sa guérison était le fait qu'il a reconnu qu'il a un problème. Généralement, dans ces cas-là, nous avons beaucoup de patients qui ne savent pas exactement qu'ils ont un problème avec l'alcoolisme. Ils pensent avoir le contrôle, ils pensent pouvoir arrêter à n'importe quel moment. Or, c'est une étape qui est assez difficile à accepter, mais dès que la personne sait qu'elle a déjà un problème, qu'elle a accepté, le reste du traitement devient plus facile. Mais malheureusement, c'est un traitement qui implique un suivi par beaucoup d'équipes. Il faut un psychiatre, un psychologue, plus toute une équipe d'accompagnement. Généralement, une équipe de support qui peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être des clubs, peut-être toi, d'alcooliques anonymes et autres, pour parler des divers problèmes que chacun a, ou alors des manières, des méthodes qu'ils ont pour s'empêcher de consommer ces substances-là, et ça que ce soit la cigarette ou l'alcool. Il existe aussi des produits médicamenteux. Prenons d'abord le cas de l'alcool. Par rapport à l'alcool, il existe des substances qui sont censées empêcher la consommation de l'alcool. Empêcher dans le sens où, dès que vous ingérez ce médicament, si vous prenez de l'alcool, elle provoque des sensations qui sont excessivement désagréables, des vomissements, des vertiges et autres, ce qui vous pousse naturellement à rejeter cette substance. Mais malheureusement, pour ces médicaments-là, elles sont encore au stade d'essai clinique. Ce ne sont pas encore des médicaments qui sont approuvés, donc on ne peut pas les utiliser dans tous les cas. Et concernant la cigarette, il existe également des substituts. Vu que la substance qui provoque le plus d'addiction dans la cigarette, c'est ce qu'on appelle la nicotine. Il existe des substituts, que ce soit sous forme de patch que vous collez sur la peau pour vous couper l'envie de fumer, ou alors des bonbons ou des chewing-gums que vous pouvez mâcher quand vous sentez l'envie de fumer pour carrément arrêter. Donc ça, ce sont les différentes alternatives. Mais la méthode de suivi et de traitement la plus efficace, ça reste toujours les groupes de support avec un bon suivi psychologique.
Dans notre contexte, ici à Maroua, à l'extrême nord, est-ce que ce genre de solution est opérante?
Non, malheureusement, elle est encore à ses débuts. Comme je vous ai dit, le gros souci, c'est que beaucoup de gens ne sont pas au courant qu'ils sont déjà dépendants. Donc, ils ne savent pas qu'ils sont malades. Donc, ils vont difficilement se tourner vers cette solution. Et quand bien même l'entourage va suggérer qu'ils ont un problème par rapport à la consommation d'alcool, la première réaction, ce sera de se mettre en colère, de nier. Et qui est généralement même l'un des symptômes de la dépendance, surtout la dépendance à l'alcool.
Docteur, il y a une certaine opinion qui affirme que l'organisme a besoin de temps en temps d'un peu d'alcool. Est-ce que cela est vrai?
Oui, généralement, cette opinion-là, beaucoup la suivent et beaucoup la déforment malheureusement. La consommation modérée d'alcool a un effet bénéfique sur le système cardiovasculaire, particulièrement sur le cœur, du fait qu'elle empêche les maladies coronariennes, dont l'athérosclérose. Ce sont des dépôts, des plaques de graisse qui se déposent dans les artères et généralement conduisent à la diminution de l'activité du cœur. Généralement, c'est une consommation très limitée, environ un verre de vin par jour, pas plus d'un verre. Et généralement, c'est plus indiqué chez les personnes qui ont déjà plus de 40 ans. Parce qu'à moins de 40 ans, on n'a pas encore un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Et c'est une suggestion qui peut être faite à des sujets qui sont âgés ou exposés aux maladies cardiovasculaires. Mais le problème, c'est que dès qu'on dépasse cette dose-là, cette quantité, ça a l'effet inverse. Au lieu d'être protecteur, il devient plutôt destructeur. Et généralement, c'est conseillé de le prendre pendant les repas.
D'accord.
Il faut éviter de prendre ça à jeûne, prendre cette consommation-là pendant les repas. L'effet bénéfique vient du fait que ça diminue le taux de mauvais cholestérol. Et ce cholestérol-là, c'est celui-là qu'on absorbe pendant l'alimentation. Donc, c'est pour ça qu'il est conseillé de prendre pendant les repas.
Il y a aussi des personnes qui prétendent qu'ils boivent souvent de l'alcool pour noyer leurs soucis. Est-ce que l'alcool est un antidépresseur?
Ceci, c'est, comment je veux dire, une légende urbaine. C'est complètement erroné comme méthode de pensée. Parce que certaines substances illicites vont agir en stimulant la production d'hormones au niveau du cerveau. Bon, notamment ce qu'on appelle la sérotonine et la dopamine. Ce sont des hormones qui font qu'on se sente heureux, qu'on se sente joyeux. Elles sont libérées lors des émotions fortes, surtout de joie et autres. Par contre, l'alcool va diminuer plutôt cette substance-là, et en augmentant plutôt le taux d'autres substances. Et malheureusement, l'alcool va agir comme dépresseur du système nerveux, parce qu'il va agir sur une zone du cerveau qui est censée réguler la partie qui agit sur le comportement de tout un chacun. Donc la personne est inhibée. Elle a juste l'impression de ne plus avoir peur de rien, que rien ne peut lui arriver. C'est cette fausse sensation-là, mais elle n'est pas heureuse. Ce n'est pas comme s'il y avait une sécrétion des substances qui rendent joyeux. Donc, tout au contraire, ce n'est pas un antidépresseur, c'est même plutôt un dépresseur. Mais c'est juste parce qu'il agit sur une autre zone du cerveau qu'on a l'impression qu'il a le même effet.
Alors, pour conclure notre émission, docteur, pour nos auditeurs qui ne comprennent pas le français, est-ce qu'il serait possible de faire un bref résumé de tout ce qu'on s'est dit tout au long de notre émission en langue foufouldée?
Ok, bien que mon foufouldé ne soit pas vraiment parfait, mais je vais quand même essayer à cet exercice-là. Yimbe Marwabe, Yimbe Marwaen, Yimbe Jedonana Radio Osere, Volcan FM. Jonta Jota, Intimine Oulu Gohala, Cigarette, Tabac, Chicha, Bimbal. Odi kuje jenye chijur ala mbalo, mbal enandikam nafata. Si toa yoti dubi chapanai, afoti ayara seda. Ide kwa nafama problem ernde toa mari. Lokam ayara vergo tel tanta pura. Ta tema toa donyama do, tema dibi midi malabe asira toa donyama afoti ayosa vergo tel amata pura. Kam kuje manfoti torrete, toa osi jur kam torrete jur. Ala tabado kam, ta onwo sasam. Kota don derke, kota naiwe, kota mari dubine, tabaka mwoda isam. Kamoji kujenje woni juran derton jedo bila bandu. Foti bilan ernde, bilan hore, bilan hen engre be bumsure. Kam kuje man nafata, dikaton achikon gaba gaba man.
Merci beaucoup docteur pour vos précieux conseils à l'endroit de nos auditeurs. Merci d'être passé ce matin dans nos studios.
Merci à vous et nous souhaitons une bonne journée, une bonne santé à tous nos auditeurs. Tous nos fidèles auditeurs.
Ok. Chers amis auditeurs, c'est ici que s'achève votre émission Santé pour tous, au cours de laquelle nous avons parlé de la consommation du tabac et de l'alcool et de leurs conséquences sur la santé. Nous rappelons juste que la consommation des drogues et autres substances psychotropes fera l'objet d'une autre émission. Avant de nous quitter, nous remercions une fois de plus le docteur Mario Sourek pour ses avis éclairés et ses précieux conseils à l'endroit de nos auditeurs que vous êtes. Nous remercions Maxino qui nous a assisté à la cabine technique. Au micro, c'était votre humble serviteur, Steve Febi. Donnons-nous rendez-vous pour une autre édition de Santé pour tous. Mais surtout, ne l'oubliez pas, prévenir vaut mieux que guérir. À très bientôt.